France Musique.
Bon week-end, Nicolas Lafitte, et à très vite.
On va déborder un petit peu. Le fichier se termine à 6h58 et 5 secondes. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit peu de musique, s'il te plaît ? Parfait pour le 1000. Est-ce que je peux te mettre à l'antenne ?
Il y a du café ?
Ouais, du café. J'arrive, j'arrive.
Bonjour à tous. Ce matin encore, Fabrication Maison vous entraîne à la découverte des coulisses de la musique à Radio France. Ce matin, nous ferons en musique le portrait du journaliste Gérard Courchel à l'occasion de la sortie de son livre « Les coulisses de la radio » justement. Puis nous irons découvrir le cœur de Radio France dans un tout nouveau projet où il est associé au musée du Louvre. À 8h20, ce sera la chronique de Marie Fauché, une chronique climatique. À 8h30, le monde fabuleux des archives de Jean-Yves Pat. Et enfin, à 8h50, notre feuilleton « Question de cœur » avec Sophie Janin. Tout cela m'a l'air bien passionnant. Vous restez à l'écoute.
France Musique.
Bonjour Gérard Courchel.
Bonjour Dominique Boutel.
Quel plaisir de vous avoir à ce micro.
Mais quel plaisir d'être là avec vous.
Alors Gérard, vient de paraître aux éditions du Chêne Radio France un très beau livre, magnifiquement illustré de photos, dans lequel Gérard vous racontait une sorte d'histoire de la radio. Nous en reparlerons, mais ce matin, dans le portrait, c'est plutôt votre histoire de la radio que nous allons évoquer, celle qui vous lie à la musique en particulier, et votre premier choix musical ce matin, c'est Benvenuto Cellini, l'ouverture, musique d'Hector Berlioz. Pourquoi donc ?
Parce que j'ai commencé à aimer la musique à l'adolescence, à la préadolescence plutôt, et que je suis tombé, si j'allais dire, dans Charles Munch, comme l'autre est tombé dans la potion magique. J'ai le privilège, pour des raisons d'âge, d'avoir vu Charles Munch diriger les 5 premiers concerts de l'Orchestre de Paris à sa fondation en 67-68. Et cette ouverture de Benvenuto Cellini, enregistrée en avril 59 à Boston, avec le Boston Symphony Orchestra, est une des plus fabuleuses interprétations berlioziennes de toute l'histoire du disque. Prise de son admirable, ouais. Qualité orchestrale hors du commun et Munch à son sommet. Pour moi, c'est fondateur.
Merci Gérard pour cette interprétation.
Avouez tout de même que c'est quelque chose.
Oui, l'ouverture du Benvenuto Cellini de Berlioz par le Boston Symphony Orchestra dirigé par Charles Munch, c'est une merveille.
C'est un disque d'ouverture et tout le disque est comme ça.
Alors le jeune garçon amoureux de la musique que vous êtes devient journaliste et a la chance.
Parce qu'il était aussi amoureux de la radio.
Il a la chance d'arriver à la radio et donc là, c'est vrai, Gérard Courchel, arrivé à la radio, c'est tombé dans un bain de musique.
Oui, ça fait partie des choses d'ailleurs qui font partie du livre et qui font partie de mon parcours professionnel. C'est-à-dire que le livre ressemble beaucoup à mon parcours professionnel. Quand je suis arrivé à la radio, à l'ORTF à l'époque, puisque c'était en janvier 72, à la rédaction de France Culture, France Musique, donc j'ai été amené à faire des journaux sur France Culture et sur France Musique, je suis très vite sorti de la petite rédaction de France Culture, France Musique, de ses locaux, je veux dire, pour aller à la découverte de cette maison. Je me vantais, avant les travaux, d'être un des personnages ou une des personnes qui connaissait le mieux la maison.
Qui ne se perdait pas.
Et maintenant, je me perds tout le temps, parce que tout a changé de place. Et tout change de place en permanence. Je me suis promené dans cette maison, qui était fascinante pour moi. J'ai poussé des portes. J'ai assisté à des enregistrements de feuilletons, de fictions. J'ai poussé la porte du 103, qui n'existe plus maintenant, parce qu'il y a le Grand Auditorium à la place. Et dans le 103, j'ai vu l'Orchestre National qui était en train de répéter avec un chef connu à l'époque, qui s'appelait Ephraim Kurtz, qui était un russe exilé. Il répétait un concerto de Mozart et une symphonie de Mozart. C'est la première répétition à laquelle j'ai assisté de ma vie. J'avais 22 ans. Donc je me suis assis, parce qu'il y avait des sièges à l'époque, dans cette petite salle, qui était une salle de répétition et d'enregistrement. Pour moi, c'était... La radio, c'était ça. C'était pas seulement présenter des journaux ou faire des papiers ou des revues de presse sur France Culture et sur France Musique.
Cette effervescence.
Cette effervescence, cette liberté du parcours et de la découverte.
Alors, des grands chefs, il y en a eu beaucoup. Vous nous proposez dans votre deuxième choix un chef qui a marqué l'Orchestre National de France, c'est Kurt Mazur.
Thank you.
le début du troisième mouvement de la septième symphonie, dite Leningrad, de Chostakovitch. Quel bel orchestre, quelle belle corde. Mais tiens, c'est l'Orchestre National de France.
Comme par hasard.
Comme par hasard, que dirige Kurt Masur. Kurt Masur qui a, c'est vrai, beaucoup apporté à l'orchestre et à la vie musicale française, on peut le dire, grâce à la radio aussi.
C'est un des grands moments, effectivement, de l'histoire de l'Orchestre National. Kurt Masur, directeur musical de 2002 à 2008. On parle de l'ère Masur, d'ailleurs. Il a rendu toute sa dignité à cet orchestre qui avait un peu souffert avant son arrivée. Il était un très grand interprète de Chostakovitch. Il l'a beaucoup dirigé à Paris. Ça, c'est un enregistrement de 2006 au Théâtre des Champs-Élysées.
Il a beaucoup fait découvrir au public parisien qu'il connaissait pas tant. Voilà. C'est français, d'ailleurs.
Il traitait, m'a-t-il dit, il traitait Chostakovitch de la même façon que Gustave Mahler. Pour lui, c'était pareil. C'était la même chose et il trouvait que le public français avait un peu de retard par rapport aux d'autres publics européens à l'époque. Le point qu'il avait programmé cette 7e symphonie dans une tournée de l'Orchestre National de France en Europe qui commençait à Londres, au Royal Albert Hall et puis ensuite qui s'est poursuivie en Allemagne et en Autriche. Il y a un certain nombre de responsables de Radio France qui avaient un peu peur que Chostakovitch soit un peu dur pour le public et Masur leur a dit mais vous savez, en Angleterre et en Allemagne Chostakovitch, on le joue comme Beethoven, comme Gustav Mahler et il avait absolument raison. Et ce qu'on vient d'entendre là est absolument admirable. On entend d'ailleurs Kurt Masur, c'est très émouvant parce qu'on entend, c'est une prise directe, hein, c'est un concert, et on l'entend
qui emmène l'orchestre.
Voilà, qui emmène l'orchestre, c'est formidable. J'ai assisté comme ça aussi pendant une tournée, pas la même, parce que j'ai eu la chance pendant les 12 dernières années de ma carrière à Radio France de suivre la musique à Radio France, la vie musicale, et d'accompagner les orchestres et les formations musicales en tournée. Il y a eu une formidable, il existe une trace aussi, mais c'est pas le même soir, mais de la 6e symphonie de Tchaïkovski, la symphonie pathétique. Là, c'était à Lübeck, en Allemagne. Et à la fin de ce concert de Lübeck, d'ailleurs, depuis avec les musiciens de l'Orchestre National, nous parlons du concert de Lübeck. Tu te souviens de Lübeck? Oui, je me souviens de Lübeck, parce qu'à la fin, toute la salle pleurait, l'orchestre pleurait, Masur pleurait, je pleurais, et je me suis procuré par la radio de Lübeck, de la radio de Hambourg, l'enregistrement de ce concert-là.
Et vous continuez à pleurer, Gérard Courchel.
Je continue à pleurer.
Il y a une deuxième grande formation à la Maison de la Radio, c'est l'Orchestre Philharmonique de Radio France et puis aussi le chœur de Radio France. On écoute. toujours aussi magique, ce lever du jour extrait de Daphnis et Chloé de Maurice Ravel.
Quelle chance nous avons. Oui, quelle chance nous avons de nous réveiller avec ça, alors. Et Dieu sait que les réveils peuvent être durs. Quelle chance nous avons d'avoir des musiciens comme cela, un chœur comme celui-là, des directeurs musicaux comme Myung-Woon Chung, qui adore cette musique, et qui l'a beaucoup dirigé lui aussi. Ça, c'est un enregistrement officiel chez Deutsche Grammophon, de Daphnis Chloé sans le chœur. Et j'ai vu, c'est la première tournée que j'ai suivie en 2002. C'était une tournée du Philharmonique avec Chung. Et il jouait ça, entre autres, à Tokyo, au Century Hall, qui est une des plus belles salles de concert du monde. Ils étaient absolument magnifiques. Et le public japonais, qui adore la musique française, ne voulait plus sortir de la salle. Il a fallu que Chung refasse venir les musiciens sur scène pour qu'il rejoue la bacchanale de Daphnis, parce que le public ne voulait pas partir. Ouais. C'est formidable d'assister à des moments pareils. C'est pour ça que j'intitule le chapitre du livre « Les coulisses de la radio » consacré à la vie musicale de Radio France. Je l'ai appelé « Une boîte à musique », parce qu'il y a un petit jeu de mots là. Mais c'est une grosse boîte à musique. Avec quatre formations musicales, avec des concerts, avec des participations à des festivals, avec son propre festival, même celui de Radio France et Montpellier.
Mais quelle chance. Festival Présence qui nous fait découvrir la création.
Oui, et le Festival Présence. Oui. Voilà. Et puis des séries de concerts, de musique de chambre, etc. Mais c'est-à-dire, quel bonheur. En plus, il y a l'auditorium maintenant, le nouvel auditorium. Mais voilà.
Nous sommes des gens de radio heureux. Et puis, j'espère que nos auditeurs aussi le sont. Alors Gérard Courchel, on pourrait penser que vous n'aimez que la musique classique, mais pas du tout.
To stay, Green Dolphin Street supplied the setting. The setting for nights beyond forgetting, and through these moments apart. Here in my heart, when I recall the love I found on, I could kiss the ground on Green Dolphin
Comment saviez-vous, Gérard Courchel, que je voulais chanter « Sassy Swings de Tivoli » comme Sarah Vaughan? Peut-être pas le matin.
Avouez, c'était en juillet 63 au Tivoli Garden de Copenhague, concert avec trio de Sarah Vaughan. Et vous avez entendu la fin, la façon dont elle tient la note. Là.
Sais,
on dirait Leontine Price à la fin de « Sous la lie rose » et d'abord « Sous la lie rose » et du Trouvère de Verdi. Les grandes chanteuses de jazz américaines sont des chanteuses qui sont toujours justes. Elle chante juste, elle swing juste. Moi, je dois vous avouer que lorsque je suis de mauvaise humeur le matin, que je me lève du pied gauche, ce qui arrive de plus en plus souvent, je mets The Green Dolphin Street chanté par Sarah Vaughan.
Et après, ça va mieux.
Tout va mieux. J'aurais aussi pu choisir Ellen Merrill, j'aurais pu choisir Ella Fitzgerald, j'aurais pu choisir Shirley Horn, pour laquelle j'ai la plus profonde admiration, Bill Evans, le pianiste, enfin, etc., etc., etc.
C'est aussi ça, cette maison de la radio, Gérard Courchel, ce que vous évoquez dans votre livre, dans la boîte à musique. On a évidemment les grandes formations, mais on a aussi tous ces concerts de jazz, toute cette chanson française qui est défendue par la maison. Et c'est vrai que c'est assez magique quand on se promène dans ce couloir des studios qu'on appelle, nous, la petite couronne. On a l'impression dans chaque studio qu'il en sort un genre musical différent, du baroque au...
C'est parce que nous jouons notre rôle de service public. Mmh. Et c'est parce que France Musique joue son rôle de service public que sur France Musique, on entend du jazz. Sur la radio concurrente, dont nous ne citerons pas le nom, on n'entend jamais que de la musique classique. Alors grosso modo, 1780-1920, terminé. Et que des hits. Sarah Vaughan ne connaît pas, Shostakovich ne connaît pas. Nous, on fait ça.
C'était notre petit quart d'heure de publicité. Merci, Gérard Courchel.
C'est un peu plus compliqué à faire.
Oui, c'est sûr. Retour à Sibelius. Thank you. Magnifique fin du quatrième mouvement de la première symphonie de Jean Sibelius, l'orchestre philharmonique de Vienne, Leonard Bernstein. C'est bien, Gérard, de finir sur Sibelius.
Oui,
c'est votre dernier amour.
C'est une découverte tardive, mais bon, c'était en 1977, donc ça fait quand même un petit moment que ça dure. J'avais 27 ans, quoi, grosso modo, et j'ai découvert ça d'un seul coup, alors qu'on méprisait cette musique. Et c'était pendant la période où Bernstein venait régulièrement diriger l'Orchestre National de France. Alors hélas, il n'a pas fait de Sibelius avec l'Orchestre National, mais c'est la association de beaucoup de souvenirs que je tente de raconter en partie dans ce livre, pas qu'à propos de la musique, parce que j'y parle aussi un tout petit peu d'information de la rédaction de France Inter, de la matinale de France Inter,
Bien sûr, vous
en doutez, et des chroniques sur France Info.
Oui, voilà. Qui vous a occupé quelques années, on va dire.
Qui m'ont occupé quelques années, et j'essaie de faire entrer le public, parce que c'est évidemment un livre qui est plutôt destiné au public, et pas aux professionnels, qui est vraiment destiné à les faire entrer dans la machinerie Radio France, dans la machinerie de l'information, dans la machinerie de la musique, des chaînes, des différentes stations.
Machinerie et magie, Gérard Courchel. Alors, je vous recommande tous Les coulisses de la radio, et donc écrit par Gérard Courchel, paru aux éditions Duchesne Radio France. C'est un assez joli cadeau de Noël. Merci Gérard.
Merci Dominique.
À très vite, j'espère.
À bientôt. Thank you.
Extrait du magnifique coffret que l'Orchestre National de France a publié pour fêter ses 80 ans. Un coffret de 8 disques regroupant les plus beaux concerts d'archives. Nous écoutions un extrait de la suite pour orchestre Roméo et Juliette de Serge Prokofiev sous la baguette de Sergiu Celibidache, enregistré au Théâtre des Champs-Élysées le 29 mai 1974. Bonjour Jérôme Sandlars.
Bonjour Dominique Bouten.
Alors aujourd'hui Jérôme, vous allez nous parler d'un projet tout à fait original, initié par le Chœur de Radio France, en lien avec la Petite Galerie du Louvre.
Exactement. Depuis cette année, la Petite Galerie du Louvre propose aux jeunes et à leurs accompagnateurs, parents, enseignants, animateurs, de s'initier à l'art à travers l'exploration d'œuvres majeures de la préhistoire à la création contemporaine. En fait, il s'agit de créer, je cite, une véritable école du regard pour apprendre à découvrir une œuvre d'art, pour trouver des clés, pour donner du sens, pour comprendre et pour s'émerveiller. Et pour sa toute première exposition, intitulée « Mythe fondateur, d'Hercule à Dark Vador », présentée tout au long de l'année scolaire, la Petite Galerie du Louvre a proposé à la Maison de la Radio d'inventer un concept musical en parallèle. C'est Christine Gorier, la responsable des projets pédagogiques du Chœur de Radio France, qui s'y est attelée en proposant une série de concerts famille et scolaire, dont le premier a eu lieu samedi dernier au studio 104 de la Maison de la Radio, et c'est elle notre guide aujourd'hui.
Christine Gorier, là on est dans le grand hall de la Maison de la Radio. Il est environ 15h et dans 2h ce sera le concert. De quoi s'agit-il cet après-midi ?
C'est un concert qui a été imaginé en lien avec une exposition de la Petite Galerie du Louvre sur les mythes fondateurs. Et en fait, il appartient à une série de 3 concerts. Le premier concert est consacré à la création du monde. Le deuxième, on va suivre les pas des héros dans leur quête. Et le troisième, c'est un retour aux étoiles. Pour le premier concert, par exemple, on part du chaos et on voit la création des luminaires, la nature, les hommes. On fait un petit tour au paradis avant d'en sortir relativement violemment. Puis un petit passage avec une pièce absolument extraordinaire de Velio Tormis dans les guerres. Et enfin, on terminera sur une note d'espoir avec un hymne à l'infini de Schubert et le premier mouvement de I Share Creation du compositeur britannique Bob Chilcott. Chaque concert est précédé d'un atelier choral ouvert à une trentaine de membres du public et des classes de lycée ont également été préparées à chanter ce bis.
Alors ces classes de lycée, je crois qu'elles ne seront pas là cet après-midi malheureusement, parce qu'en raison des récents attentats, en fait, les scolaires ne sont pas autorisés à venir, c'est ça ?
C'est exact, mais on espère qu'ils seront tous présents pour les 2 concerts suivants.
Et puis je crois que vous avez aussi travaillé avec des étudiants en BTS.
En effet, parce qu'il va aller faire le lien avec l'exposition du Louvre. Donc nous avons choisi avec eux un certain nombre de pièces exposées dans l'exposition de la Petite Galerie. Les étudiants BTS ont fait des choses absolument magnifiques que l'on va projeter pendant le concert.
Je vois que l'heure tourne, Christine. Où est-ce que vous allez là ?
Là, je vais écouter le raccord du chœur de Radio France.
Le raccord du chœur ? C'est quoi ? C'est la répétition, la dernière répétition avant le concert ?
Avant le concert, oui, tout à fait, qui est dirigé par Sophie Jeannin.
Sophie Jeannin, vous êtes chef de chœur et directrice musicale du chœur. Comment vous avez travaillé sur ce projet, donc sur les mythes fondateurs ?
Très bien. Le projet m'a été présenté par Christine Gourier, notre responsable pédagogique. Je pense que c'était important pour elle qu'on ait une palette d'expressions assez diversifiée, c'est-à-dire d'affronter un grand nombre de pièces a cappella, de styles extrêmement contrastés, et essayer de trouver ce changement de climat très immédiat entre les pièces, même au niveau de la vocalité. On ne chante pas du tout le Schubert de la même façon dont on chanterait le Veliotormis. Donc il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu quand on travaille sur 10 pièces si différentes. Des recherches d'effets différentes, aussi un travail sur l'intonation, sur quelques textures dans ces œuvres qui sont très délicates, très fragiles, et également sur les textes qu'on porte. Et on a chanté dans beaucoup, beaucoup de langues dans ce concert, donc il fallait aussi un travail vraiment, vraiment phonétique.
Formidable, très très bien, merci beaucoup. Les alti, très musical, votre cadence en bas de la page 1. Assouplissez ensuite, s'il vous plaît, le mi, c'est-à-dire au niveau du ton, cherchez l'homogénéité à vous fondre après ça, voilà, sur le mi, que vous chantez sur le mot hor, voyez. Super.
Vous allez où, la Christine Gourier ?
Je vais accueillir les membres du public qui se sont inscrits à l'atelier choral.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Vous êtes venu pour participer à l'atelier famille, c'est ça ?
Absolument.
On a réservé des places pour vous derrière le chef de chœur. Parce que l'idée, c'est que vous allez chanter le bis avec le chœur de Radio France, de vos sièges, hein, vous n'avez pas besoin d'aller sur scène, hein, pas besoin de trembler. Hein.
Vous faites partie d'une chorale ?
Non, pas moi, mais les enfants font partie du conservatoire.
Donc là, vous allez apprendre à chanter tout le bis.
C'est quoi tout le bis ?
Le bis, c'est quand on reprend une œuvre à la fin du concert si les gens sont super contents.
Ah, ok, donc c'est pas sûr.
C'est cool.
Il y a des parents qui commencent à arriver, accompagnés pour la plupart de leurs enfants. Ça se remplit, là, dans le hall de la porte B.
Bonjour.
Vous êtes inscrite à l'atelier pédagogique ?
Oui, oui, tout à fait. Mon fils chante dans le chœur Sotto Voce, qui est en résidence au Théâtre du Châtelet. Et voilà, donc je voulais essayer de tenter une expérience nouvelle.
C'est quoi ton prénom ?
C'est Charles.
Tu chantes depuis longtemps ?
Oui, là, c'est ma 4e année, au moins, de chant, mais pas dans ce chœur.
Et tu connais un petit peu le répertoire qui va être chanté cet après-midi, au concert ?
Non. J'aime beaucoup chanter, d'ailleurs j'aimerais être chanteur et je fais aussi de la batterie et j'aime beaucoup le rock. Sinon j'aime bien la musique française.
Classique aussi ?
Un peu moins mais j'aime bien.
C'est maman qui aime, c'est maman qui le traîne un peu pour qu'il apprenne différentes choses.
Bonjour, s'il vous plaît pour l'atelier chorale, je vous accompagne jusqu'à l'atelier pédagogique. Voilà.
On attend encore deux familles, mais en attendant, je voudrais vous présenter Johnny Esteban, qui est ténor dans le chœur de Radio France et qui va animer cet atelier. L'idée générale, c'est que vous chantiez le bis avec le chœur de Radio France. Juste avant les applaudissements, donc vous l'aurez encore dans l'oreille, ne vous inquiétez pas, c'est une pièce d'un compositeur britannique qui est toujours vivant, qui s'appelle Bob Chilcott. Ça s'appelle « I share creation », c'est-à-dire « je partage la création », parce qu'on est dans la création du monde. Donc on espère vraiment que vous allez aimer. Et je vous laisse avec oui. Johnny.
Bonjour. Ah oui, donc il va falloir tout de suite ouvrir la voix, tout de suite. Hein. Donc si je vous dis bonjour, il faut me répondre de la même manière. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, comme ça on va se mettre en voix tous ensemble. Les enfants, vous avez déjà chanté un peu en anglais ?
Oui.
À l'école ou ce que tu entends à la télé ?
Dans le conservatoire.
Très bien, parfait. Alors c'est écrit sous la forme d'un gospel. Il va falloir y mettre beaucoup de corps, vous allez voir. Pam, pa, la, pam, pam, pam. Juste ça. 3 et. C'est ça. Alors, pour les voix aiguës, pas de souci. Hein. Pam, pa, la, pam, pam, pam. Vous chantez là-haut, il n'y a pas de problème. Ouais, mais avec tout le monde. 3 et. C'est exactement ça. Très bien. Alors, c'est donc le thème que vous venez d'apprendre. When the sun rises. 1, 2, et.
When the sun rises.
C'est ça, c'est ça. Pour l'instant, c'est un peu. When the sun rises. C'est très religieux. On va lui donner un tout petit peu plus de groove en utilisant vraiment les accents, que ce soit très gospel. When the sun rises. 3, et.
When the sun rises.
Très bien. I go to work.
I go to work.
Alors, le K, faut qu'on le pose ensemble. C'est ça les problématiques du chœur quand on est à 60 ou 120 sur scène, c'est de poser ces finales là ensemble. En fait, il y a deux temps et on pose le K sur le troisième. I go to work. Et je vous le coupe. 3 et.
I go to work.
Ah, il y a encore un petit peu qui sont en avance. Sun, c'est plus un A. When the sun, pour que ce soit très clair, bien accroché. Et.
When the sun rises, I go to work.
Voilà, c'est ça. Mais alors, on évite juste de poser le K aussi avec un mouvement de tête qui fait work. Pas la peine, pas la peine. C'est la langue qui doit travailler. Ok. I share creation. Kings can do no more. I share creation. Kings can do no more.
I share creation.
Voilà, très bien, c'est bien, ça prend forme, ça prend forme. Remettez-vous assis. Merci beaucoup de votre patience.
Merci.
Et puis, bon concert. Alors.
Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette expérience ?
Le chant professionnel, c'est d'une complexité. Chaque seconde, chaque même quart de seconde est importante. Le tempo et ne pas faire tout dérailler soi-même. Ne pas porter la responsabilité de tout faire foirer.
Vous avez une petite appréhension ou pas ?
Non, ça va. De toute façon, on est porté.
À tout à l'heure.
Au revoir.
Allez-y.
Bonjour. C'est numéroté ou c'est...
C'est placement libre, monsieur.
Allez-y.
Bonjour.
Alors, on entre dans le studio 104 de la maison de la radio. La salle est quasi pleine. Et beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. Le concert va commencer dans quelques instants. Alors là, on est entouré de jeunes gens. Qui sont-ils, Christine ?
Ce sont des étudiants tout à fait extraordinaires qui sont en deuxième année de BTS design graphique au lycée Jacques Prévert de Boulogne-Billancourt. Pour la plupart d'entre eux, ils n'étaient pas musiciens. Et on leur a demandé en fait de faire le lien entre la partie visuelle, c'est-à-dire l'exposition de la petite galerie du Louvre, et le concert du chœur de Radio France. Donc lien entre musique et art pictural, art graphique.
Alors comment vous avez travaillé ?
Alors en tout cas, personnellement, pour moi, c'était tout nouveau. On avait beaucoup travaillé sur de l'image fixe, de l'image sans son. Et donc là, il fallait appréhender le son avec l'image pour réaliser un tout qui aille avec l'esprit de la musique en fait, qu'on nous a attribué.
C'était un exercice plutôt inspirant pour vous ?
un peu difficile au début, parce qu'il faut réussir à s'imprégner vraiment de l'univers de notre musique, l'univers du compositeur, et après, l'inspiration vient.
Vous avez travaillé sur quelle pièce ?
Moi, j'ai travaillé sur la musique de Veljo Tormis, pour la guerre, avec le tableau Pandémonium.
Et ça donnait quoi, visuellement ?
Moi, j'ai travaillé sur un côté un peu épileptique, essayer de retranscrire une atmosphère de guerre et d'angoisse pour retransmettre au public tout ce que moi, j'ai ressenti en écoutant ma musique et en regardant l'œuvre qui m'était attribuée.
J'ai trouvé que...
Sophie Janin.
C'était intéressant, la multitude de propositions qui ont été très épurées. Quelque chose de vraiment très, très propre, linéaire, très graphique à tout moment. Même au choix des couleurs, ça restait très sobre. Et puis finalement, la musique l'était pour beaucoup. Donc j'ai été très touchée par leur sensibilité par rapport aux œuvres. Moi, j'ai toujours été intéressée par la transversalité des arts. Et je pense que la musique n'a aucunement besoin d'être habillée en quelque sorte ou illustrée. Elle tient debout comme elle est. Mais de joindre des éléments différents, de joindre des arts différents, j'ai toujours trouvé ça extrêmement riche et intéressant. Et je pense que nous, les musiciens, on n'est pas les plus avancés dans le domaine. Je trouve que justement les artistes, peintres, plasticiens, les danseurs sont beaucoup plus familiers à cela. C'est quelque chose qu'il faut poursuivre, qu'il faut développer et chercher d'autres idées parce que c'est intéressant d'imaginer la musique en 3D en quelque sorte.
Merci beaucoup Sophie Janin.
Merci à vous.
Ça vous a plu dans l'ensemble, le concert, avec vos visuels ?
Oui.
À l'instant, c'était un extrait de Raoul Nedmin, Maudit sois-tu, fer, pour ténor et basse solo, chœur mixte et percussion de Veljo Tormis, avec Franz Michel au piano et Emmanuel Kurt aux percussions. Le prochain concert du chœur de Radio France, en lien avec l'exposition Mythe fondateur d'Hercule à Dark Vador à la Petite Galerie du Louvre, aura lieu le 10 janvier prochain à 16h à l'auditorium de la Maison de la Radio. Il s'intitule La quête des héros et sera suivi d'un troisième volet, Retour aux étoiles, le 7 mai. Quant à l'exposition, elle se tient jusqu'au 4 juillet 2016 à la Galerie du Petit Louvre.
On y va. Merci. Super. Jérôme. Agenda. Aujourd'hui à 17h, retrouvez Jean-François Zigel pour un nouvel épisode des Clés de l'Orchestre. Avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, aujourd'hui, les tableaux d'une exposition dans la version Moussorgsky-Ravel. Et puis restez à la Maison de la Radio pour assister à un moment unique que vous ne pourrez vivre qu'ici, à 19h, un concert fiction. Il s'agit cette fois-ci du texte de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres, sur une musique de Didier Benetti que jouera l'Orchestre National de France. Lundi soir à 20h, ne manquez pas l'enregistrement de l'émission Couleurs du monde de Françoise de Georges, qui reçoit Anando Gopal Das Baol et l'ensemble Saaiyas Baol Sampraday, musique et chant des Baol du Bengale. Et enfin, vendredi 4 décembre à 20h, concert de l'Orchestre Philharmonique de Radio France autour de Brahms Schoenberg avec la pianiste Lise de la Salle. C'est à l'auditorium de la Maison de la Radio.
Veuillez écouter un reportage d'actualité. Veuillez écouter notre concert de musique de chambre.
Le monde fabuleux des archives sonores. Bonjour Jean-Yves Paz.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Jean-Yves, avec vous, on continue notre tour de France, après le sud, après le nord, après l'est. Nous voici à l'ouest.
Nous voici complètement à l'ouest.
Quoi d'autre de dire ?
C'est cas de le dire. Radio PTT Bretagne, c'est une radio qui fédère plein de régions différentes en Bretagne et qui a une seule raison d'être, c'est une mission de service public presque, c'est d'apprendre à parler français aux Bretons. Ça c'est étonnant puisqu'on a vu Radio Strasbourg la dernière fois qui remettait à l'honneur la langue alsacienne. Et bien là c'est tout à fait l'inverse, on va chercher à éradiquer, si je puis dire, le ou les parlés bretons. Donc c'est une radio qui diffuse énormément de théâtre, de leçons de français et de chansons françaises. Je me suis dit qu'aujourd'hui, une leçon de français, ça ne nous intéresserait pas beaucoup ce matin. Mmh. Et en hommage plutôt à toute la l'aspect fantastique de la Bretagne, j'ai choisi une Totentanz de Franz Liszt, interprétée par Édouard Kilenyi au piano.
Édouard Kilenyi,
qui est un grand pianiste hongrois, d'origine hongroise, qui a fait toute sa carrière en Europe et qui ensuite, en 1939, c'est-à-dire quelques heures après l'enregistrement de ce disque, va partir vite fait. C'est un pianiste un peu oublié et vous verrez à tort parce que c'est un musicien de génie.
Thank you. Thank you.
Quelle belle pièce qu'on n'est-ce entend pas. Finalement très peu, cette Totentanz de Franz Liszt, jouée par Edward Killeney au piano avec un orchestre.
Un grand orchestre,
alors ça, il était grand. Sous la direction de Semar Merovitz.
Voilà, Semar Merovitz qui est un grand chef listien, qui a beaucoup enregistré de Liszt dans l'avant-guerre et qui reprendra sa carrière, évidemment, heureusement, après la guerre.
C'est un disque pâté, quatre faces, vous précisez, Jean-Yves.
Oui, parce que sont quatre faces enchaînées pour obtenir presque 16 minutes de musique.
Paris, et il a reçu ce disque, le Grand Prix du disque en 1939.
Il était temps, non ?
Il était temps, oui. Merci Jean-Yves, à la semaine prochaine. Bonjour Sophie Jeannin.
Bonjour Dominique.
Alors Sophie, toutes les semaines vous répondez aux questions de cœur et depuis le début du mois de novembre, nous sommes sur le terrain de la technique du chef. Il y a quand même un mystère pour ceux qui regardent un peu de l'extérieur, au concert en particulier. Il y a cette main droite, cette main gauche. La semaine dernière, vous évoquiez l'indépendance éventuellement des deux mains. Vous, personnellement, à quoi vous sert votre main droite quand vous dirigez?
Personnellement, je suis pas très stricte dans, on va dire, cette base d'école allemande avec une indépendance donc de la main droite et de la main gauche. Mais quand même, ma main droite va clairement indiquer le tactus, même si elle va aussi voyager dans certaines nuances, caractères, etc.
C'est quoi le tactus, Sophie?
Ah, le tactus, c'est notre tempo et notre mesure qu'on est en train de battre. Donc, pour clairement indiquer aux musiciens, donc chanteurs et instrumentistes, quelle est la mesure dans laquelle nous sommes. Bien évidemment, ce que le public peut se demander, c'est que à quoi il sert, parce qu'ils ont des partitions, tous ces musiciens.
Exactement.
En effet, le chef doit pouvoir la communiquer de façon vivante. Dans ma main droite, quand je donne une levée, non seulement il doit indiquer le tempo dans laquelle la vitesse
4-4, 3-4,
oui, et la vitesse dans laquelle nous sommes, mais là-dedans, dans cette première levée, on doit également pouvoir intégrer nuance et caractère. Donc il y a énormément de choses qu'il faut intégrer dans ce geste. Après, le public peut aussi se demander pourquoi le chef dirige avec une baguette à la main droite et pourquoi il en a pas. D'ailleurs, un chef gaucher peut très souvent aussi diriger avec la baguette à la main gauche, même s'il y en a qui se forcent à toujours diriger avec la baguette à la main droite. Ça m'arrive de faire les deux. En principe, quand je prends la baguette, c'est juste parce que logistiquement, il y a beaucoup de choses à gérer. On a beaucoup de monde dans la salle. Et finalement, la baguette, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rajoute une clarté. Quand je suis dans un concert chœur a cappella, pour moi, il n'est pas utile de diriger avec une baguette. Je peux me servir de mes doigts et aussi des paumes de mes mains. Et ça, c'est aussi très efficace. Et dans la sculpture du son, dans des désinences sur des consonnes qu'il faut placer, dans la forme des voyelles, dans des attaques, la main peut bien évidemment être un outil aussi intéressant. Puis après, il y a bien évidemment tout le bras aussi qui se rajoute.
On parlera du bras un autre jour si vous voulez bien. Merci Sophie Jeanne.
Merci.
Extrait du Magnificat de Nicolas Porpora, chanté par la maîtrise de Radio France, qu'accompagne l'ensemble Pulcinella, mené par Ophélie Gaillard, avec à la direction Sophie Jeannin. Un concert enregistré à Montpellier en juillet 2014. La chronique de la Maison Ronde. Bonjour Marie Fauché.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Alors Marie, une chronique écologique ce matin.
Je suis curieuse. Eh bien oui, il y a 3 semaines, ici à Radio France, 1000 collégiens se sont réunis dans le cadre de l'opération hashtag Ma Planète, organisée par France Info. Ils ont travaillé, ces collégiens, et réfléchi depuis le mois de septembre à des solutions pour sauver la planète. Ils les ont consignés dans un livre blanc remis au président de la République. Ce projet s'inscrivait bien sûr dans un mouvement de sensibilisation à la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la fameuse COP21 qui débute, faut-il le rappeler, lundi, au Bourget.
Mmh.
Alors, je ne vous propose aucune solution ce matin pour le climat.
Ah bon, dommage.
Non, mais plutôt quelques traductions musicales en toute légèreté de nos questionnements écologiques, lesquels commencent bien souvent par la fonte des glaces sur la rivière Oulu de Sibelius n'est pas pour nous rassurer. Qui dit fonte des glaces dit, semble-t-il, entre autres évolutions, le bouleversement des conditions aquatiques et l'extinction progressive de certaines espèces marines. Cela m'a évoqué la litanie pour la baleine de John Cage, où l'on entend les silences et les sons du monde sous-marin, le chant des baleines. C'est une complainte quasi médiévale qui date cependant de 1980.
Paul Hillier dirige ici l'ensemble Theatre of Voice dans cette litanie pour la baleine de John Cage.
De la baleine menacée de disparition, intéressons-nous à l'abeille qui n'est pas très en forme non plus. Pour cela, on peut relire le très beau livre de Maurice Maeterlinck intitulé « La vie des abeilles ». C'est un livre qui date de 1907, c'est tout à la fois de la belle littérature et une observation minutieuse et presque scientifique de la vie des ruches. Un an plus tard, en 1908, Stravinsky composait son scherzo fantastique, inspiré de la vie des abeilles de Maurice Maeterlinck. En voici le bourdonnement. Du scherzo fantastique de Stravinsky qui deviendra d'ailleurs un ballet sous le titre Les Abeilles. Ici c'était Pierre Boulez et l'Orchestre Philharmonique de New York.
Un scherzo fantastique qui d'ailleurs sera donné à l'auditorium de la Maison de la Radio le 15 janvier prochain par l'Orchestre Philharmonique de Radio France.
Alors il y a une espèce dont on nous dit qu'elle n'est pas du tout en voie de disparition et même qu'elle serait en partie responsable du réchauffement climatique en raison des gaz à effet de serre qu'elle émet. Je veux parler des vaches, bien sûr.
Ma pauvre vache.
Néanmoins, si elles sont responsables de ceci, elles sont également à l'origine de bien des chefs-d'œuvre musicaux.
Ah tiens.
Le rang des vaches, cet appel des bergers suisses, a inspiré beaucoup de compositeurs. Ici, petit exemple dans l'ouverture de Guillaume Tell de Rossini. Pour conclure cette chronique dédiée à notre planète, prenons encore un peu plus de hauteur avec la création de Joseph Haydn.
C'était l'introduction de la création de Joseph Haydn par les solistes baroques anglais dirigés par John Eliot Gardiner. Merci Marie Fauché. Les fêtes de Noël approchant, il est temps de penser aux cadeaux que l'on va faire aux plus jeunes de nos mélomanes. Pourquoi pas un livre-disque ? Et pourquoi pas la boîte à joujoux de Claude Debussy, enregistrée par l'Orchestre Philharmonique de Radio France ? Vous l'avez compris ce matin, Fabrication Maison vous permet de gagner ce livre-disque publié chez Actes Sud Junior de la boîte à joujoux de Claude Debussy sur un texte de Marie Desplechin et que raconte Éric Ruff de la Comédie Française. À la tête de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, son chef, Mico Franck. Pour gagner ce livre-disque, il vous suffit de nous écrire en allant sur la page de l'émission Fabrication Maison sur le site de France Musique. C'est la fin de notre émission, réalisée avec la complicité de Pauline Boisaubert, de Philippe Petit, d'Adelino Mello et de Frédéric Potry. À bientôt.